Et allez, on remet le couvert.
Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30. Des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107FM.
Possibilité de tout, là, oui. Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107, nous sommes le lundi 19 février, il est 8h30, à la technique, il est avec moi, bonjour Léo.
Bonjour Ben.
C'est assez rare, mais j'adore te voir avec moi le matin.
Ça fait du bien de se lever tôt en fait.
Ah ouais, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, paraît-il. Au programme de cette matinale, j'ai le plaisir d'accueillir Fabio Zenoni, bonjour.
Bonjour.
Ça va chanter le bel accent du plat pays qui est le nôtre, ça me met vraiment en joie, merci beaucoup Fabio, tu es auteur, acteur, comédien et tu seras au Pont de Montvert avec ton spectacle Newman, ma mère et moi ce vendredi. C'est mis en scène par Damien Bricoteau. Bonjour Damien.
Bonjour Ben.
C'est toujours un grand plaisir de t'avoir sur cette antenne. Ça va, tout va bien pour un lundi matin?
Tout va très bien.
On est comme des petites fusées là.
Un plaisir de vous accueillir. Merci à tous les deux d'être avec nous. On parle de votre spectacle juste après l'édito. En deuxième partie d'émission, ce sera ton reportage Léo sur la maison du vélo de Florac. Et enfin, le reportage de Malone qui était en stage avec nous la semaine dernière, en stage de 3e. Il était au club d'escalade la semaine dernière. On écoutera ça tout à l'heure. Il y aura de la musique comme d'hab et on commence par l'édito. Vous êtes bien sur Barthas.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Il n'y a point de pire sourd que celui qui ne veut point entendre. Eh oui, vous êtes bien sur Barthas. Quoi de mieux que de citer Molière pour commencer la semaine? Un lundi à 8h30, ça fait du bien, ça met de bonne humeur, ça détend. Surtout qu'on ne sait pas de quoi cette semaine sera faite. Pour beaucoup, ce sera sans doute une semaine de merde. Pour d'autres, sans doute sera-t-elle belle. Et pour nos politiques, de toute façon, ils feront comme d'hab, ils nous traiteront comme des merdes. Il n'y a point de pire sourd que celui qui ne veut point entendre. Ah, il nous manque Molière. Je pense très sincèrement qu'il rigole. Rigolerait vachement de notre époque et nous nous délecterions de ces pièces sur les élites qui nous gouvernent. La colère gronde partout. Prof, milieu hospitalier, taxi, justice, service public en général, les agriculteurs, bref, il n'y a quasiment plus un secteur qui ne gueule pas, sauf peut-être les parlementaires qui se sont augmentés. Encore une belle leçon de culot. Bref, tout le monde est à deux doigts de craquer, très sincèrement, de péter les plombs, sans évidemment omettre les jeunes. Ah, ces jeunes délinquants dans nos cités qui ne savent que tout pété, qui défie l'autorité. Pas d'inquiétude, tonton Attal a trouvé la solution.
Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter.
Voilà, on est bien, t'as entendu, sale jeune? Tu vas moins faire le malin maintenant, espèce de détritus de notre société. C'est ta faute si tout part en vrille, et pas de la leur, hein, parce que eux, ils ont tout fait pour toi. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils te tutoient, parce que tu ne mérites pas le respect, parce que t'es qu'une merde, tout simplement. Ils t'en vont te montrer à toi à coups de matraque et de police, à coups de marseillaise et à coups d'enlever les aides pour tes parents, parce qu'il y a que comme ça que tu peux comprendre. Ils t'en vont te montrer comment la République va se réinstaller dans ton quartier. T'écoutez? Mais écoutez quoi? Ta détresse sociale, l'insalubrité du quartier dans lequel tu vis, la violence et les délits de faciès dont tu es victime chaque jour, le manque de tout dans ta cité, pas de culture, pas de moyens, aucun accès à aucun loisir. Quant à ton école, parlons-en, 10 degrés dans ta classe l'hiver, 40 l'été. Tu as compris comme moi, toi le jeune, tu n'as aucune chance et c'est pas demain qu'on va t'en donner. Et pendant ce temps-là, tonton Attal continue sa mue à droite.
Dans 18 départements, nous avons lancé une expérimentation qui conditionne le RSA à 15 heures d'activité pour l'insertion. Je vous annonce que nous généraliserons ce dispositif à tous les départements de France d'ici le 1er janvier 2025. Au risque de décevoir certains ici, personne ne demande un droit à la paresse dans notre pays.
Alors dans ce délire, il y a deux choses, le devoir de travailler et le non-droit à la paresse. Ces notions de droit et de devoir, bien des philosophes s'en sont fait les chantres. Chateaubriand, dans ses mémoires d'outre-tombe, ouais, je suis en forme ce matin, hein, Chateaubriand, Molière, on y va, disait... C'est le devoir qui crée le droit et non le droit qui crée le devoir. Ainsi donc, si on reparle de ce qu'a dit Attal, le devoir de bosser amène donc au droit de vivre décemment et de partir en vacances, donc de pouvoir paresser. Mais ces notions sont aussi interchangeables. L'idée d'avoir le droit à l'accès au travail de manière égale implique le devoir pour un patron de payer de manière décente. Le RSA tourne aux alentours de 600 euros par mois. Allez, au bas mot, 15 heures x 4,5 semaines pour les petits mois, je suis gentil, ça fait 67 heures 5. 5 et 600 divisé par 67,5 heures, ça fait 8,80 euros de l'heure. Et vous ne cotisez ni pour le chômage, ni pour la retraite. Le SMIC net est à 9,50 et aller vivre avec 600 balles par mois, ça vous laisse rien à la fin du mois et vous donne le droit à rien. C'est QFD. Chateaubriand a dit aussi, le plus grand malheur des hommes, c'est d'avoir des lois et un gouvernement. La colère gronde, le peuple va sans doute bientôt s'enflammer, et n'oubliez pas, il n'est de pire sourd que celui qui ne veut point entendre.
Sans vouloir être désobligeant, vous encombrez, c'est encombrant. Pour gagner des parts de marché, je suis obligé de vous licencier. Enfonçons-nous sans hésiter dans l'économie de marché. Spéculons, faisons du profit, jetons les miettes au RMI. Allons vers la guerre en col blanc, esthétique sans effusion de sang. Y a pas de loi, y a pas d'honneur.
Rentrons-nous sur le malheur. Allez, de retour avec Fabio et Damien pour le spectacle Newman, ma mère et moi. Ça se jouera ce vendredi au Pont de Montvert. Merci beaucoup d'être avec nous. Fabio, tu en es l'auteur et toi, Damien, à la mise en scène avec Thibaut Neve. C'est comme ça qu'on dit, Thibaut Neve ?
Absolument.
On s'est croisés hier dans le hasard le plus absolu, vive la Lozère. On a commencé à discuter. Alors, avant de parler de la jeunesse du spectacle et de son contenu, commençons par cette phrase qui m'a intrigué. C'est dit sur le programme que vendredi, c'est une étape de chantier. Ça veut dire quoi ?
Ben, ça veut dire qu'on est en travail. On est en travail. C'est un spectacle. Voilà, c'est une création totale. C'est-à-dire que le texte est créé, la mise en scène est créée. Donc on a comme ça des rendez-vous avec le public. Et vendredi, c'est un des rendez-vous importants pour nous, qui marquera la fin des deux semaines de travail et qui marquera aussi un rendez-vous avec les gens. C'est-à-dire d'avoir des retours, de savoir un peu voilà où on en est, de se confronter à un public en fait. C'est ça, une étape de chantier, et c'est comme ça aussi que nous, on avance.
Fabio, tu es donc l'auteur et l'interprète de cette pièce. Comment tout a démarré ? C'est quoi le point de départ de cette aventure ?
Le point de départ de cette aventure, c'est une envie folle de raconter toutes sortes de choses que j'ai vécues moi-même dans ma vie. En fait, c'est d'une certaine manière, pas parler des autres. Parler en fait des metteurs en scène que j'ai rencontrés, des comédiens que j'ai croisés dans ma vie, des difficultés à être comédien, parce que c'est vrai que c'est un métier où on en parle souvent de manière très élogieuse, très voilà la piste aux étoiles, c'est merveilleux, c'est sublime, mais pour y arriver, pour en faire quelque chose, faut passer par des étapes, et ces étapes sont racontées notamment dans le spectacle. Voilà, c'est comme par exemple, à un moment donné, je passe un casting pour une pub pour Danone. Voilà, qu'est-ce que c'est de passer un casting pour une pub pour Danone pour un comédien ? Qu'est-ce que c'est de faire ses premiers cours de théâtre ? Qu'est-ce que c'est fréquenter d'autres comédiens avec chacun ses égos, chacun ses univers, comment travailler ensemble ? Et sur fond de ça, nous avons le fil conducteur qui est l'histoire de ce jeune homme, moi, qui ne sait pas quoi faire de sa vie, et sa mère lui dit « tu es fait pour être comédien », et au grand dam de sa maman, il va se retrouver à être passionné par la comédia dell'arte et le masque, et pour elle, c'est l'enfer.
Oui, parce que la phrase d'accroche du spectacle est simplement géniale. « Ma mère voulait que je sois Paul Newman, j'ai raté sa vie ». Alors, on pense bien sûr à la projection que peuvent faire certains parents, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, mais c'est bien de ça dont il est question dans la pièce.
Oui, puis c'est aussi l'histoire d'une libération, c'est-à-dire comment un jeune homme et comment un homme rentre dans sa vie d'adulte et se libère des différentes pressions sociales, maternelles, familiales, etc. C'est vraiment le parcours d'un homme qui arrive au bout du compte à être un peu lui-même, et c'est pour ça que ça part de Fabio, ça part de son histoire, mais je pense j'espère en tout cas qu'on va toucher quelque chose de très universel en fait, quoi.
Ça va à contre-courant, quelque chose aussi généralement quand on dit à nos parents, hey, je vais être comédien, ouais, je vais être musicien, ouais, je vais être danseur, trouve-toi un vrai métier.
Ouais,
d'abord,
oui, c'est
et
ça.
Après, ça va à contre-courant de tout ça un peu.
Un peu. Et puis, on est quand même, on raconte aussi cette époque des années 70 où tout était un peu possible, quoi. Mmh. Où la mère dit, très bien, fais ça, formidable, très bien, etc. Mais voilà, avec quand même la projection que peuvent faire parfois les parents sur, sur leur progéniture. Quoi. Mmh.
Comment ça s'est passé le processus de création, Fabio ? Est-ce que ça t'a pris du temps pour écrire ? Est-ce que tu as fait comment ? Des petites post-it à droite, à gauche ? Concrètement, comment tu as écrit un peu ça ?
C'est très simple. Il y a eu deux phases. La première phase remonte à 2009, c'est ça que tu disais ?
Ouais.
Où d'abord, j'ai eu envie d'écrire un spectacle sur la compagnie de théâtre avec laquelle j'ai bossé pendant 10 ans. Un petit peu comme la... Je ne me prétends pas à sa hauteur, mais enfin, un petit peu comme l'a fait Cobert avec Ariane Mouchkine, ben moi, j'ai vécu aussi pendant 10 ans avec une compagnie de Comédia dell'Art qui se trouvait en banlieue parisienne, où j'ai vécu des aventures incroyables. Vraiment, voilà, j'en parle, certaines sont racontées dans le spectacle. Et donc, je voulais raconter ça, parce que c'était pour moi quelque chose d'assez extraordinaire dans tout ce qui était les rapports humains, et puis ce côté un peu les coulisses du métier. Et puis, j'ai commencé à écrire ce projet, avec Damien notamment, on est parti en improvisation, tout ça, puis j'ai mis ce projet dans le fond d'un tiroir. Et puis, il y a 3 ans, un petit burn-out est venu frapper à ma porte. Et grâce à ça, et suite à ça, un Covid. Et donc, les deux réunis, je me suis retrouvé pas mal à la maison à cogiter. Et j'ai réouvert les tiroirs. Et dans les fonds de tiroir, je suis retombé sur ce projet. Et je me suis dit, tiens, j'ai le temps. Donc, je vais réécrire. Je vais me remettre à écrire. Et j'ai pensé à ma mère. Et je me suis dit, quand même, si j'en suis aujourd'hui là, elle est quand même un petit peu responsable de cet état un peu... Voilà, et ce qui était intéressant aussi, c'est de constater ça aujourd'hui à 53 ans, à me dire, mais nom de Dieu, elle est là, elle est toujours présente, j'ai du mal à m'en défaire. Et je me suis dit, et j'ai vu le rapport avec mon métier, et j'ai fait le lien entre les deux, en fait, entre l'ancien spectacle et le nouveau, et on en a fait un unique aujourd'hui.
Comme une espèce de catharsis, en fait.
Ouais,
complètement. Ouais. Bah, quand je te parlais de libération, c'est vraiment ça, quoi.
Ouais.
C'est vraiment la catharsis, quoi.
Le synopsis, on dit beaucoup sans trop en dire. Enfin debout, je rends hommage aux errances, aux détours, aux enfances héroïques et aux bouées de fortune, aux pères qui ont fui ou qui ont survécu, tout dépend du point de vue, du point d'attaque, de l'angle des années qui passent et qui vous transforment un sourire, une histoire, un souvenir, une vie entière. Alors, je me suis dit, en préparant cette interview, que c'est marrant, ça m'évoque les souvenirs qui se distordent avec le temps. Je m'explique, parfois on sait plus trop bien si on a vécu une scène ou si elle est issue d'une photo ou de quelque chose qu'on nous a raconté. C'est ça que ça veut dire, un peu l'angle des années qui passent.
À fond, c'est très juste ce que tu dis. Non, mais tout à fait. Moi, c'est comme ça que j'ai écrit le spectacle, c'est-à-dire que, et c'est ce qui est très agréable de se laisser aller dans la fiction, c'est qu'il y a effectivement des souvenirs qui ont évolué avec le temps, comme le téléphone arabe, là, quand on se raconte une histoire, et puis 3-4 personnes après, c'est une autre histoire. Les souvenirs, je suis d'accord, c'est un petit peu ce même parcours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a des souvenirs. Je sais pas s'ils sont exacts,
oui.
Mais en tout cas, il y a un fond qui est là. Il y a en tout cas un fond, comment dire, émotionnel qui est toujours présent aujourd'hui, des années après.
Oui, puis on est quand même sur une... comment dire, une autofiction. En tout cas, dans l'autofiction, il y a fiction. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'être dans la véracité. L'idée,
non,
c'est de faire du théâtre, quoi. De faire vraiment du théâtre, quoi.
Ça veut dire quoi, avec puis sans masque ?
Avec puis sans masque, il y a deux choses. Il y a, on va dire le premier degré, c'est j'ai commencé ma vie de comédien en jouant avec un masque. J'étais passionné par ça. Puis j'ai enlevé le masque et j'ai fait la deuxième partie de ma carrière sans masque. Après, avec masque, c'est comment moi, je me suis créé un personnage, notamment par rapport à ma mère, qui avait un masque. Et ce masque, c'était le masque d'un fils parfait à ses yeux. Voilà, et donc, mais pour avoir ce masque, j'ai été obligé de rentrer dans le mensonge. Et donc, j'ai joué un autre personnage pour m'enlever de la pression, pour la satisfaire, pour qu'elle soit contente. Et donc, je me suis inventé un gars super comédien qui, en fait, passait un casting pub et lui disait « J'ai passé un casting pour Patrice Chéreau, maman. »
Mais ce qui est génial aussi dans cette histoire de masque, c'est que effectivement, c'est un masque, donc on est caché, mais on ne peut être bon avec un masque si on est très vrai. Et c'est ça qui est passionnant, en fait. Et c'est ça qui est très paradoxal, finalement. C'est qu'on est, on est caché derrière ce masque, on joue un personnage, en plus c'est souvent des archétypes, pantalon, le docteur, ça. Mais si on n'est pas vrai à l'intérieur, le masque il ne vit pas, quoi. Donc c'est assez fou, en fait, ce paradoxe-là. Et c'est vraiment la théâtralité à l'état pur, quoi, en fait.
Alors ce spectacle est donc mis en scène par non pas un, les deux metteurs en scène.
Oui, il y en aura peut-être même plus.
Simonel et toi, Damien, comment ça s'est passé votre rencontre d'abord ?
Avec Fabio ? Ouais. Fabio, on se connaît depuis très longtemps parce que figure-toi, on était à l'école de théâtre ensemble dans les années 90, c'est comme ça qu'on dit par chez vous ?
Bien sûr, dans les années 90, quand j'étais jeune comédien, je montais à Paris pour tout casser,
mais la baraque. On se croisait, mais on ne se connaissait pas vraiment. On s'est retrouvés ensuite sur une tournée où Fabio jouait dans une mise en scène d'Irina Brooke, un spectacle de Marivaux, qui s'appelait L'île des esclaves. Moi, j'étais plutôt en prod sur ces trucs-là. Et là, on a eu vraiment une chouette rencontre. On a beaucoup ri, on a beaucoup échangé. Et après, il y a eu une connexion avec cet endroit, avec les Cévennes. Parce que Fabio a commencé à venir beaucoup en Cévennes avec sa famille. Moi, évidemment, j'étais aussi pas mal là. Et il y a eu cette connexion-là.
T'as donc à faire depuis 74.
Exactement. Et donc, voilà, il y a eu cette rencontre-là. Et puis, des envies de faire des choses ensemble. Des envies de passer du temps ensemble, de faire des choses ensemble et de d'essayer des choses. Voilà, comme il a dit, on était partis au départ sur des impros pour essayer de construire un truc. Et puis voilà, au fur et à mesure, ça s'est étoffé.
Pour rajouter un peu à ce que dit Damien, c'est que on a une connivence, une complicité dans le rire avec Damien. Moi, c'est quand je l'ai rencontré sur la tournée de l'île des esclaves. C'est-à-dire que, à l'époque, par exemple, je lui jouais déjà des personnages du spectacle que les gens vont voir vendredi. Je m'amusais déjà à lui faire des improvisations avec Damien et il me relançait et on riait beaucoup. Et je me disais, mais c'est dingue, il y a un potentiel dans cette complicité qui est là et on n'en fait rien. Et ça a mis du temps avant que j'y pense, mais quand j'y ai pensé, ça m'a paru évident que c'était avec lui que je devais travailler. Et je travaille aussi avec Thibonnet parce qu'en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on m'a souvent dit, attention Fabio, quand tu te lances dans un seul en scène, ne travaille pas qu'avec une seule personne. Parce qu'effectivement, je livre ma matière à une personne qui peut évidemment la détourner ou me dire. Donc, c'est très important pour moi d'avoir deux personnes. Donc, j'ai pris une personne, Thibonnet, metteur en scène belge, qui me connaissait pas. Donc, lui avait un œil complètement frais sur ce que je racontais. Et Damien Bricoteau, metteur en scène français, qui lui me connaissait. Et donc, m'a permis aussi d'aller plus loin dans des personnages parce qu'il savait que tel personnage, il dit non, là où tu en es, il faut pousser le curseur, faut monter, faut y aller plus. Lui, il était capable. Thibaut, il savait pas ça. Donc voilà, c'était une complémentarité qui était très importante pour moi.
Tu l'as trouvé aussi, Damien, avec Thibaut, cette connexion, cette complémentarité.
Oui, mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'avec Thibaut, on bosse très peu ensemble, tous les trois. C'est-à-dire que pour l'instant, le travail s'est organisé où c'est moi, soit j'étais avec Fabio, soit il était avec Thibaut, mais on a eu, pour l'instant, un rendez-vous vraiment tous les trois quand on a joué, parce que le spectacle a été créé dans une première version il y a un an à Namur, dans un théâtre génial qui s'appelle Le Jardin Passion. Et là, on était tous les trois, mais c'était la seule fois, en fait. Mmh. Et là, j'imagine qu'on se retrouvera un peu quand le spectacle va se jouer en Belgique et tout ça. Mais c'est, ce qui est assez marrant, voilà, c'est qu'on bosse vraiment... On a chacun Fabio pour nous, quoi.
Est-ce qu'il y a, vous permettez, en tant que metteur en scène, d'apporter des corrections au texte ou alors...
Ah oui. Bah, c'est-à-dire qu'on propose, quoi. On propose, après, c'est évidemment Fabio qui a le final cut, hein, comme on dit, mais voilà, moi, parce que voilà, moi je suis assis à ma table, je le regarde faire et je me dis là, attention, il y a une petite baisse de rythme ou il y a un truc qui pourrait être plus percutant ou peut-être ça faudrait le mettre là, le décaler. Oui, on fait des retours, il y a un travail d'écriture commun, quoi, même si encore une fois, voilà, c'est le texte de Fabio, donc c'est Fabio qui à la fin tranche en disant oui, non, ça, moi je le sens comme ça, je le ferai comme ça, quoi.
Vous avez tous les deux des très jolis CV, hein. Quand j'ai tapé ton nom, Fabio, un début au théâtre en 96, puis une vingtaine de films, des feuilletons à l'appel, Damien pareil, bref, deux jolies carrières. Damien, est-ce que c'est plus simple de mettre en scène un comédien ou une comédienne qui a de l'expérience ou alors est-ce que c'est plus compliqué parce que peut-être moins malléable? Pardon, j'ai pas trouvé d'autres mots.
Non, c'est différent. Encore une fois, on se connaît très bien avec Fabio, donc il y a beaucoup de bienveillance et puis beaucoup de, j'aime pas le terme, mais d'efficacité parce qu'on se connaît justement et qu'il y a des fois des choses qui passent même au-delà des mots et il n'y a pas de... Tu sais, moi, on en avait parlé ici, d'ailleurs, l'expérience que j'avais fait sur le songe d'une nuit d'été avec des amateurs, où là, t'es un travail de mise en scène puis un travail de transmission. Donc c'est une énergie qui est différente parce que t'es voilà il y a ce travail technique à faire, etc. Là avec Fabio évidemment qu'on va pas commencer à faire de la technique parce que voilà c'est quelque chose qui est acquis quoi. Mais non il y a quelque chose peut-être de plus rapide entre guillemets. Et puis maintenant on est aussi voilà on sait ce qu'on veut et lui et moi donc on va droit au but comme dirait l'OM.
Et de la Belgique à l'OM.
Ouais, c'est
parfait,
ça.
J'adore. Fabio, est-ce que le propre du comédien, c'est quand on travaille avec des metteurs en scène comme ça, c'est le plus dur peut-être, ou le propre, je sais pas, c'est est-ce que c'est de se remettre en question, d'accepter la critique, est-ce que c'est simple tout ça?
C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer, parce qu'il faut accepter la critique, il faut accepter surtout quand on est seul en scène à un moment donné et qu'on écrit le spectacle, il faut c'est hyper important de pouvoir se mettre à nu devant l'autre et accepter complètement. Ça veut pas dire se laisser faire, mais ça veut dire c'est pour ça que moi j'avais besoin de travailler avec deux personnes avec qui j'étais hyper en confiance. Et Damien, j'ai hyper confiance en lui, en ses retours, en ses critiques, et donc ça, c'est comme ça que je rebondis, quoi. Moi, je rebondis vraiment avec. Il me dit ça, ce passage-là. Je trouve que là, on s'étale, on a déjà raconté ça. Au début, je vais me vexer parce que c'est moi qui l'ai écrit, donc je lui dirai ah, t'es sûr ? Ah bon ? Moi, je trouve ça bien. Puis le soir, je vais m'endormir.
C'est exactement comme ça qu'il fait.
Je vais m'endormir et puis je vais me dire non, mais il avait raison. Hein. Puis je relis le texte, je me dis ouais, non, en fait, je raconte ça, ça au début. Il a raison, on cut. Et c'est vrai que après, petit à petit, on taille et on arrive à l'efficacité redoutable du voilà, la version qu'on a fait il y a un an était déjà plus longue et un petit peu plus lourde. Là, elle s'est allégée, elle est plus percutante grâce à ça, parce qu'on coupe, parce qu'on taille, parce qu'on critique, parce qu'on cause ensemble, quoi.
Est-ce que jouer sa propre création, c'est ça rajoute un stress supplémentaire, ou alors est-ce que finalement c'est plus jouissif que de jouer le texte d'un autre?
Eh ben, en tout cas, moi, sur ce spectacle-là, je dois avouer que l'année dernière, tant que j'avais pas joué, je ne me rendais pas compte. Et j'ai vraiment pris un pied de dingue à jouer les 5 dates qu'on a faites, les 5 premières au théâtre de Namur. Je dois avouer que je pense que c'est une de mes meilleures expériences de jeu. Alors, après, c'est vrai que c'est un plaisir aussi énorme à mon âge, à 53 ans, de pouvoir m'offrir un cadeau qui est de jouer des personnages que j'ai envie de jouer depuis longtemps. Personne n'aurait pu m'offrir ça. Et là, je me l'offre parce que je me l'écris. Et donc, c'est vrai que quand je suis sur scène et que je fais ces personnages et que les gens rient, je suis vraiment, vraiment, c'est un vrai bonheur. Ça ne veut pas dire que j'aime pas jouer les textes des autres. Au contraire, sinon, je ferais que du seul en scène avec mon écriture. Mais je suis content de passer par là. Et vraiment, je pense que je vais en écrire un deuxième parce que c'est vraiment trop le bonheur, quoi.
Damien, à quoi doit s'attendre le public vendredi au Pont de Montvert?
Il doit s'attendre.
Une grosse vague, un tsunami de rigolade.
un tsunami de rire,
hein, je te dis, moi. Hein, il faut que la France et la Belgique restent en contact comme ça.
Non, mais ce qui est marrant, justement, c'est que c'est vrai que quand on parlait du spectacle à Namur, on disait one man show, on disait vraiment. Et là, on est en train d'essayer de. Alors, on fait pas un spectacle sinistre, loin de là. On est plutôt même, je pense que c'est un spectacle drôle. Mais on essaye vraiment de s'attacher à une psychologie, enfin, en tout cas, un parcours, comme je te disais, un parcours de libération, de raconter une histoire, quoi. Et de pas être juste dans l'efficacité du sketch. Donc, j'espère qu'ils vont rire, oui, effectivement, et puis qu'ils vont s'attacher à ce personnage.
Quoi. Vraiment, là, c'est très important ce que Damien vient de dire. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis assez fan des comédies où en fait le fond il y a un drame, c'est-à-dire que pour moi c'est surtout des comédies à l'anglaise. Moi c'est ça que je voulais faire aussi avec le spectacle, c'est-à-dire que l'histoire de fond elle est plutôt dramatique, mais elle permet vraiment d'aller dans des situations de comédie assez fortes, parce que j'ai vu un spectacle à Bruxelles il y a un mois sur une famille qui enterre le papa, et c'était à mourir de rire ce qu'avait écrit la fille, mais le fond est dramatique. Et moi, je trouve que c'est les meilleures comédies.
Ça fait du bien, effectivement. Ça allège quand on sort d'un spectacle comme ça.
Oui, et puis, le rire, c'est quand même ce qui va nous sauver. Enfin, je repense à l'édito que tu viens de faire. Il faut quand même de l'humour pour tenir un peu le choc, là, en ce moment. Il faut quand même un peu de distance, un peu d'humour. Et effectivement, c'est quelque chose de libérateur et de convivial, en tout cas, qui nous rassemble. Il y a de la fraternité dans le rire aussi. Parce que toute une salle qui rit ensemble à la même chose, on se dit, c'est pas perdu, quoi. quoi. Il y a quelque chose de très rassurant, presque.
Le spectacle vivant.
Mais oui, il y a quelque chose qui nous rassemble malgré tout, quoi.
Comment ça se passe quand on a un spectacle comme ça, après, pour le vendre? Quel avenir on lui souhaite? Est-ce qu'on y pense?
Ah oui, ah bah oui, beaucoup. Mais moi, oui. J'y pense énormément. C'est-à-dire que là, on fait cette résidence. Donc voilà, on va jouer vendredi, effectivement, à la salle polyvalente du Pont de Montvert à 19h30. Je précise bien à 19h30. Et après, ben, je vais filmer. J'ai déjà envoyé la captation à 2-3 théâtres à Bruxelles qui sont intéressés. Et ben voilà, moi, mon idée, ce serait de faire Avignon, pas cet été, mais l'été prochain. Puis voilà, puis après, à Paris, on va faire ce qu'on appelle des showcases. Des auditions, on va faire des lectures du texte, voire jouer le spectacle devant des directeurs de théâtre, devant des producteurs. Voilà, il faut que le spectacle puisse se vendre effectivement et être joué au maximum.
Toi Damien, tu vas nécessairement faire jouer ton expérience aussi
En tout cas, oui, à nous deux, voilà, et c'est plus que l'expérience, c'est les gens qu'on connaît, les gens qu'on va essayer d'intéresser à tout ça, mais effectivement, il ne faut pas jamais perdre de vue, malheureusement, l'économie d'un spectacle. C'est-à-dire qu'on est quand même sur de la matière, c'est compliqué parce qu'on est sur de la matière humaine, mais il y a aussi des enjeux économiques qu'il faut bien gagner sa vie.
Newman, ma mère et moi, c'est ce vendredi au Pont de Montvert à partir de 19h30, comme Charles Trenet, à l'heure.
À l'heure, s'il vous plaît.
Pas 19h31.
Ah non.
Pas 19h29.
Ah non. Hein.
C'est écrit et interprété par Fabio Zedoni, mise en scène par Damien Bricoteau et Thibaut Neve. Pour réserver, c'est passemontagne48@gmail.com. C'est prix libre. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci beaucoup.
Allez, dans un instant, on part à la maison du vélo et au club d'escalade Fabio. On va se faire un petit plaisir. Alors, on finira par les Rolling Stones, Damien,
oui,
promis.
Mais
un petit plaisir. Jacques Brel, le plat payé.
Oh, merci.
Bonne journée à tous les deux.
Oh, oui. Merci.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes pour arrêter les vagues, et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'Est. Écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne, où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage, et des chemins de pluie pour unique bonsoir, avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien.
Aujourd'hui, je suis à la Maison du Vélo accompagnée de Laure, la mécanicienne et animatrice. Bonjour à toi.
Bonjour Léo.
Ici à la Maison du Vélo, tu organises souvent des ateliers mécaniques, autoréparation. On en a déjà parlé lors de la Bourse au Vélo. On va tout de même en redire quelques mots pour remettre un peu en contexte, ça consiste en quoi un peu un atelier d'autoréparation ?
Un atelier d'autoréparation, c'est un moment où l'atelier de la maison du vélo est ouvert à tout le monde, où chacun, chacune peut venir faire ses réparations, bricoler les vélos, apprendre, transmettre du savoir autour de la mécanique vélo. Et voilà, en gros, les outils sont à disposition et il y a toujours au moins moi et ou une bénévole de l'asso qui est là pour accueillir, encadrer, voilà. Et ça se finit souvent à quatre mains sur un vélo dans l'entraide avec toutes les personnes qui sont là.
Qui répare dans un atelier d'auto-réparation ?
Surtout pas moi. C'est le moment où moi je pourrais enfiler des gants blancs et ressortir avec en principe ma paire de gants immaculée. L'idée c'est vraiment que ce soit pas moi qui ait les outils, pas moi qui fasse les réparations, mais que chaque personne qui passe la porte de l'atelier pratique la mécanique, fasse sa réparation avec des conseils s'il y en a besoin. Des fois il n'y a pas besoin, il y a des gens qui sont déjà autonomes. Et que du coup toutes les personnes repartent avec un peu plus de savoir, un peu plus d'autonomie sur les réparations, sur leur vélo.
Il y a une régularité dans ces ateliers ? C'est tous les combien de temps ? Vous y êtes combien à peu près aussi dans ces ateliers en général ?
Ce qu'on essaye de faire en 2024, c'est minimum une fois toutes les deux semaines. Et il y a des fois où ça s'enchaîne plusieurs semaines d'affilée. Ça dépend un peu. On annonce souvent les dates le mois précédent pour le mois qui vient. Et combien il y a de personnes ? Eh ben, ça dépend de la motivation des gens à venir. Mais par exemple, hier, on était une bonne dizaine, je pense, tout au long des trois heures d'atelier d'autoréparation. Et ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, selon les sessions.
Tu me disais l'an passé, du coup, que tu avais grandement envie de mettre en œuvre un projet genre et vélo au sein de la maison du vélo. C'est donc quelque chose qui va s'appliquer aux ateliers ?
Exactement. L'idée, c'était, entre autres, de proposer une fois de temps en temps, par exemple une fois par mois, si ça prend, des ateliers d'autoréparation en mixité choisie, donc c'est-à-dire réservée pour les femmes et les minorités de genre, qui souvent sont des personnes qui sont plus intimidées par le domaine de la mécanique, qui peuvent se sentir un peu en porte-à-faux, s'il y a déjà des gens qui sont très connaisseurs, qui sont souvent des hommes, etc. Et donc là, on se réserve un petit peu l'atelier pour nous, pour ces publics qui ont des fois besoin d'un espace un peu plus tranquille, un peu plus à leur mesure, pour prendre confiance et pratiquer la mécanique dans un premier temps dans ce contexte-là.
C'est quoi qui va faire la différence avec un atelier classique ? Est-ce que ça se ressentir la différence ?
Ça, faudrait venir poser la question à toutes les personnes qui vont participer et qui pourraient comparer, mais souvent ça change un peu en termes d'ambiance. De mon expérience, moi j'ai un peu commencé par la mécanique aussi en mixité, puis après en mixité choisie. Ça aide à avoir confiance, c'est plus tranquille, il y a des comportements des fois qui peuvent être un peu compliqués dans les ateliers méca qu'on retrouve pas, avec des prises de position un petit peu supérieures, de quelqu'un qui sait faire, de quelqu'un qui prend les outils des mains, donc ça en général on coupe court à ces situations inconfortables dans les ateliers en mixité choisie. Et après souvent on rigole aussi, ça permet aussi d'aborder plus facilement les pourquoi on a des freins en tant que femme ou minorité de genre à une pratique telle que la mécanique, d'évoquer une expérience malencontreuse qu'on a eue et qu'on n'a jamais vraiment réussi à débriefer, etc. Et de partager du commun, en fait, quand on se rend compte que c'est pas juste nous et que peut-être c'est quelque chose qui se répète auprès de gens qui nous ressemblent, on se dit que oui, c'est un peu chouette d'avoir cet espace-là. Encore une fois, comme un moyen pour prendre confiance et puis de toute façon, continuer aussi à venir si on a envie aux ateliers ouverts à tout le monde.
Est-ce que toi, ça va changer un peu ta manière d'animer ces ateliers ? Tu vas les animer différemment ?
Je crois pas. je sais pas trop encore. Moi, j'ai beaucoup été de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire participante à des ateliers ou des formations en mixité choisie. Et c'est l'occasion aussi d'en animer, mais je sais pas si j'aurai une différence fondamentale de posture.
On verra ça a posteriori. On en reparlera peut-être. Du coup, tu disais que ça rappelait des anecdotes à certaines personnes et que c'était le moment pour en parler. Est-ce que toi, tu aurais quelques anecdotes comme ça personnelles à exposer?
Moi, la première fois, c'était il y a longtemps maintenant, quand j'étais jeune étudiante, que j'ai passé la porte d'un atelier vélo associatif parce que je cherchais une pièce, je crois, pour mon vélo. C'était un atelier tenu par des gars où j'ai passé la porte, je me suis pas sentie très accueillie, je me suis sentie jugée. voilà, pas très bien considéré, pas considéré comme quelqu'un qui en vaut la peine, entre guillemets, ou en tout cas trop débutante, etc. Et bon, j'ai fait demi-tour sans ma pièce détachée et je ne suis jamais retournée dans cet atelier. Voilà. Et ensuite, plusieurs années après, il y a un atelier d'autoréparation en mixité qui a ouvert dans ma ville. Et c'est vrai que là, j'y suis retournée et j'ai trouvé ça plus confortable, plus facile. Donc voilà, ça peut être ce genre de choses. Après, d'expérience et d'avoir partagé avec des connaissances et des amis également, ce qui peut être incommodant dans les ateliers mixtes, c'est des postures, bah voilà, de gars qui sont plus experts, donc qui veulent t'apprendre comment faire, prennent les outils des mains, ne te laissent pas pratiquer seul l'autoréparation, et ça peut aller après avec des comportements plus conflictuels, des remarques sexistes qui sont pas appropriées, des réflexions ouais, insultante, intimidante, voilà. Bon, il s'est jamais passé ça à la maison du vélo de Florac, par ailleurs. Mais voilà, c'est un peu une gradation de comportement qui peut, voilà, rendre inconfortable certaines personnes à ces moments-là.
Ce serait quoi ta manière de réagir en tant qu'animatrice à l'atelier de Florac si un comportement comme ça arrivait?
Ben, de mettre un stop direct, de prendre en compte, de faire un point avec la personne qui serait insultante, d'expliquer que ben nous à la maison du vélo de Florac on tolère pas les comportements sexistes, qu'il y a des comportements à avoir qui ne soient pas de cette façon-là, quoi. Et d'essayer de faire comprendre aussi, parce que des fois c'est un peu insidieux. Bon, si c'est une insulte, c'est une insulte. Je pense tout le monde, enfin la majorité des personnes peuvent réagir, mais des fois c'est un peu plus insidieux, notamment quand on veut aider. Du coup, on dit ah bah attends, je te montre, et là on fait à la place de la personne, et du coup on peut se retrouver avec une ben, celle qui était venue pour faire sur son vélo, qui regarde faire un homme qui sait mieux sur son vélo et qui ne touche plus du coup la méca. Et c'est plus difficile, je pense, ce genre de situation à cerner, sur lesquelles agir, c'est de bah, pouvoir refaire un peu de pédagogie, de dire bon, ben en fait là, si tu veux expliquer, c'est chouette, demande à la personne si elle en a envie déjà. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux que je te donne un conseil? Peut-être la personne, elle a envie de prendre une heure pour un peu trimer sur, je sais pas, sa crevaison, et bah, peut-être une crevaison pour certains, c'est 10 minutes ou 5 minutes. Peut-être cette personne-là, elle a besoin de passer une heure à gérer sa crevaison pour se sentir autonome, pour se dire qu'elle a réussi de A à Z. Et voilà, et mais c'est OK de faire ça. C'est justement dans ces espaces-là d'auto-réparation et qu'on n'a pas d'objectif forcément de rendement, en fait. On est là surtout pour apprendre à faire de la mécanique par soi-même, quoi.
On avait une discussion déjà là-dessus il y a pas longtemps sur à quel âge une femme fait de la mécanique pour la première fois. Tu pourrais m'en dire quelque chose, toi, ça c'était à quel âge?
Alors, je sais pas s'il y a une statistique officielle en France, mais moi j'ai tendance à dire, alors c'est, on va dire, mécanique et bricolage confondu, mais que moi j'ai appris à tenir une perceuse à 30 ans et que ben c'est différent pour certains. Enfin, je vois que mon frère, il a toujours eu beaucoup plus les outils dans les mains tout de suite, et c'est vrai que de fait moi, en tant que femme, j'ai l'impression de ne pas avoir acquis ces compétences jeunes, de m'être dit assez rapidement, bon, bah, c'est pas pour moi, je sais pas faire, etc. Alors qu'en fait, ben, tant qu'on fait pas, on sait pas faire, ça, c'est sûr. Personne n'est avec le gène de la mécanique vélo. Par contre, en pratiquant, en étant accompagné de façon agréable, soutenante et non confrontante, on acquiert ces compétences-là et on peut se débrouiller tout aussi bien que n'importe qui.
Tu avais des chiffres aussi sur les participations hommes-femmes à des ateliers de vélo, le pourcentage, ou déjà ici à Florac, tu remarques quoi?
Ici à Florac, c'est assez équilibré, je dirais. Les tout premiers étaient plutôt masculins, mais c'est vrai que là, depuis... Bon, désormais, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde parce que c'était mélangé avec la bourse au vélo, donc il y avait les enfants, mais janvier, etc., on est souvent très mixte. Je sais pas si c'est le fait que moi, je sois une mécanicienne femme qui pose hein, quelque chose d'office, qui donne de la confiance à certaines femmes ou personnes issues des minorités de genre à venir. Mais sinon, quand même, j'ai pas les stats en tête, mais les études, notamment du réseau de Le Recyclage, elles le décrivent assez bien. C'est quand même en général plus majoritairement masculin. C'est pour ça en fait que ces permanences en mixité choisie, qui existent dans plein d'ateliers vélo en France et même à l'étranger, se sont développées doucement, quoi, en se rendant compte de ce biais et en se disant bah ce serait chouette d'agir là-dessus. Et pour ça, bah, il faut comme moyen trouver des solutions, un peu de ouais, des moyens en tout cas pour agir sur cette disparité et se donner confiance et de l'autonomie là-dessus, quoi.
Toi, pour avoir fait, pour être aujourd'hui ici à la Maison de Ville en tant que mécanicienne et animatrice, t'as fait des formations? T'as fait quoi comme formation? Est-ce que pareil, on peut se sentir jugé dans ces formations-là?
Oui, j'ai fait une formation en reconversion professionnelle il y a quelques années, qui est la formation. On va dire l'officiellement technicienne vendeuse cycle, mais qui en fait s'appelle technicien vendeur cycle. Voilà, une formation assez courte, mais pour attraper un peu tout le bagage mécanique vélo. J'ai oublié la deuxième partie de la question.
Si on pouvait retrouver des comportements sexistes dans ces formations?
Malheureusement, oui. C'est assez la norme. Moi, j'ai passé plusieurs mois de formation à entendre quotidiennement « Allez les gars, on va à l'atelier » tous les jours, à chaque fois qu'on sortait de la salle de classe pour aller à l'atelier. Au point que je me suis demandé s'il fallait que je reste à faire le ménage dans la salle de classe ou que je sorte aller faire la vaisselle, je ne sais pas. Mais voilà, c'est pas forcément mal intentionné de la part du formateur là à ce moment-là, mais il se rend pas compte que juste sur une expression comme ça, ça peut exclure la seule personne, en l'occurrence, parce que j'étais l'unique femme de la formation, ben voilà, de se sentir légitime dans le groupe, etc. quoi.
Vous étiez combien ?
On était une quinzaine.
Et faire ces ateliers en mixité choisie, ça demande d'être formé ou simplement ouvert d'esprit à...
Ça demande pas spécifiquement de formation, mais je pense que quand on commence à se dire que c'est nécessaire et qu'on a envie d'en monter, c'est qu'on y a un peu réfléchi. Éventuellement qu'on a vécu des espaces en mixité choisie et qu'on a su analyser ou comprendre ce que ça venait jouer en nous ou pour les collègues qui ont participé, en se disant que ben peut-être en proposer ponctuellement, ça peut fabriquer aussi d'autres choses que les espaces ouverts à tout le monde. Moi, je sais que j'ai commencé la mécanique vélo dans le milieu associatif par une formation d'une semaine en mixité choisie. Et c'est vrai que ce qui se passe dans ces moments-là, ben, c'est plus que de la mécanique vélo aussi, quoi.
Est-ce que tu penses qu'il y a à Florac des gens encore qui n'osent pas venir réparer leur vélo par peur de jugement, peur du regard, peur d'une remarque?
J'en suis sûre. ouais. Il y a aussi pas mal de gens qui viennent en dehors des ateliers d'autoréparation. Et pour un certain nombre, je pense que c'est aussi un peu des craintes d'intimidation, de se sentir jugé, etc. Par le tout un chacun, quoi.
Et le simple fait de créer ces ateliers, tu penses que ça peut les pousser à venir ou il faut faire plus, aller les chercher directement, faire une communication différente?
Bah, j'ai l'impression que pour moi, ouvrir ces permanences une fois de temps en temps, c'est de donner la possibilité. Après, j'ai pas envie de forcer les gens. Enfin, s'il y a du monde, c'est super. Si finalement on se rend compte que personne vient, bon, bah, c'est que on va trouver d'autres façons de faire voilà. Mais non, je vais pas aller chercher une par une les personnes. En fait, c'est aussi à chacun, chacune de se demander ce qu'il a envie. Et la com, bah, c'est la même, hein. C'est les murs de Florac, c'est les sites internet, c'est la radio locale. Voilà.
Est-ce qu'en soi, du coup, un atelier en mixité choisie, c'est une réelle solution aux problèmes sexistes? Ou est-ce que c'est un outil pour offrir aux femmes, aux minorités de genre, un nouveau moyen de défense supplémentaire?
Pour moi, c'est un moyen, c'est un outil, comme tu dis. C'est pas une fin en soi, mais voilà, c'est vraiment créer un temps et un espace où on n'est pas dans des situations collectives qui reposent en partie sur le sexisme et le rapport de genre, dans des domaines qui sont très marqués en fait déjà par ces inégalités. La mécanique vélo, comme voiture, mais bon là en l'occurrence c'est vélo, mais tout ça aussi, la pratique du vélo, qu'elle soit sportive ou ordinaire, en fait c'est quand même encore des domaines genrés. Donc là c'est vraiment ouvrir un espace pour que ce domaine soit un peu dégenré et se donner du coup les moyens et de gagner en confiance et gagner en possibilité pour le reste des situations de la vie.
Est-ce qu'il existe, à ton avis, une solution à ce jour contre le sexisme et contre le jugement des autres à ces niveaux-là?
Une solution, non. C'est plein d'actions, plein de transformations qu'il faut essayer de mettre petit à petit en place. Enfin, c'est de longue haleine. Ça passe aussi bien par l'éducation, par la création d'espaces comme ça, par le fait que collectivement, on ne s'autorise, on n'accepte plus ces situations, qu'on les relève, qu'on reprenne les gens qui ont des comportements sexistes et incorrects au quotidien. En fait, il faudrait que chaque comportement soit épinglé, et je pense que ça réduirait aussi déjà la marge de manœuvre. Donc ouais, c'est une révolution à faire encore.
Participer à ces ateliers, ça a un coût. Est-ce qu'il y a besoin de réserver sa place?
Et non, il n'y a pas besoin de réserver sa place. Alors si on croule sur l'affluence, un jour peut-être il faudra, mais non, pour l'instant c'est vraiment sans inscription, juste il y a besoin de passer la porte de l'atelier avec ou sans vélo, parce qu'on peut aussi venir sans vélo, en trouver un ici et se mettre à pratiquer sur un vélo d'occasion d'ici. Et ça a un coût. Ce qu'on demande, nous, aux personnes pour les ateliers d'autoréparation en général, tout confondu, c'est l'adhésion à l'association qui est à prix libre. Donc vraiment, chaque personne est libre de donner ce qu'elle peut et ce qu'elle veut. Et ensuite, ben, selon ce qu'on fait pendant l'atelier d'autoréparation, si on change des pièces notamment, si on va piocher dans le stock de pièces d'occasion, ça reste à prix libre. Et puis si on va piocher dans le stock de pièces neuves, bon là, il y a des tarifs. Voilà, ça marche un peu comme ça à la maison du vélo.
Tous ces ateliers, du coup, ça fait partie du projet Genre et Vélo que tu souhaites monter. Est-ce qu'il y a d'autres pans dans ce projet-là qu'on verra à l'avenir arriver petit à petit?
Effectivement. Alors, dans le projet, moi, j'avais glissé plein de choses parce que j'ai souvent beaucoup d'idées. Mais en gros, les deux axes, c'est voilà, ces ateliers et aussi, du coup, du cinéma autour du vélo, des ciné-vélos. Et le premier, donc, ce sera le jeudi 7 mars à la mairie d'Ispagnac, autour de 19h. On va projeter le film qui s'appelle Les Échappés, qui est un road movie documentaire de Louise Roussel et Océane Le Pape, qui sont justement deux femmes cyclistes et issues du milieu du vélo, qui dans le film partent sur les routes de France à la rencontre de tout plein de femmes et de minorités de genre qui sont soit voyageuses du vélo, cyclistes du quotidien ou professionnelles, mécaniciennes, cadreuses, etc. et qui racontent un peu justement toute cette question du genre et du vélo le long des routes de France.
En tout cas, ces ateliers d'autoréparation mixité choisie pour les femmes et les minorités de genre fera son apparition à la Maison du Vélo le mercredi 21 février. C'est en accès libre à tout adhérent à la Maison du Vélo. C'est de 16h à 19h. N'hésitez pas tout simplement à faire un tour pour découvrir l'énergie qui peut s'en dégager. Merci Laure pour ton accueil. Quant à moi, j'essaierai de trouver une complice mercredi pour récolter les expériences humaines que ce genre d'atelier permet de créer sur le terrain. Merci.
Merci beaucoup Léo. À bientôt.
Et voilà pour le reportage de Léo. Maintenant, on écoute le reportage de Malone. Malone, il est en stage avec nous, en stage de 3e. Alors, on a adoré ce petit bonhomme. Il a été absolument génial. Il a fait plein de trucs, dont un reportage. Jeudi, il était au club d'escalade. On écoute ça, c'est parti.
Bonjour, alors moi c'est Malone et du coup je suis en stagiaire à Radio Barthas et je vais faire une interview sur le thème de club de l'escalade de Florac pour savoir quel était le processus de création du club et de comment compte-t-il s'agrandir ou se développer. Et pour cela nous allons interroger Margot.
Salut Malone.
Salut. Alors Margot, dis-nous un peu quelle est ta place au sein de ce club d'escalade.
Alors du coup, je fais partie du bureau du club de Florac Escalade. Je suis secrétaire pour la deuxième saison. Donc grosso modo, je gère un peu la gestion des adhésions et les quelques demandes de subventions qu'on fait pour essayer de développer un petit peu le club.
Alors, est-ce que au sein de ce club d'escalade, vous avez des projets pour un développement potentiel de la salle ou créer de nouvelles parois ou des trucs comme ça?
Alors, à Florac, on a une salle qui est assez petite. Et du coup, dans les prochains jours, prochaines semaines, on aimerait bien mettre à jour les prises de la salle, c'est-à-dire du coup démonter toutes les voies, nettoyer les prises et les remonter pour qu'on puisse travailler sur des nouveaux mouvements et des nouvelles voies. Et après, à plus long terme, on aimerait bien essayer de du coup développer un petit peu de nouvelles voies ou de nouvelles structures dans la salle pour la rendre un petit peu plus attractive. Mais ça, du coup, c'est des projets un peu plus conséquents qui seraient à construire avec la commune. Voilà.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'envisager un potentiel changement de salle et ou une création d'une nouvelle salle propre à vous, car si je ne me trompe pas, la salle actuelle appartient à la mairie?
Ouais. Alors, il n'y a pas forcément de projet pour le club. Il n'a pas la capacité d'acheter une nouvelle salle d'escalade. Et ça serait vraiment idéal d'avoir un nouveau local plus grand. Il y a un projet qui devrait être porté par la communauté de communes d'un centre aquatique qui est loin d'être réalisé. Mais je sais que dans ce projet-là, il y avait un projet de mur d'escalade beaucoup plus conséquent que ce qu'on a actuellement. Mais je ne crois pas que ça soit dans les tuyaux pour les années à venir. Il faudra se contenter de cette voie-là.
Comment vous faites pour attirer le monde à venir grimper sur Florac? Comment vous faites? Procédez-vous par de la propagande avec des affiches ou avec en participant à des forums tels que le forum des métiers ou des activités diverses?
Et ben effectivement, il y a plusieurs choses. Déjà, on a une page Facebook où on publie pas très souvent, mais où il y a les principales informations, donc qui s'appelle Florac Escalade. On participe aussi chaque année du coup au forum des associations de Florac. Et après, c'est beaucoup de bouche à oreille aussi pour faire connaître le club et voilà, on en parle aux copains et on fait venir de plus en plus de monde. Enfin, on essaye en tout cas.
Faites-vous plutôt des journées portes ouvertes où des personnes ayant pas forcément déjà grimpé puissent venir essayer l'escalade ou découvrir?
Ouais, ça nous est arrivé une fois en 2023 en collaboration avec le club de tir à l'arc. Et cette année, on a aussi fait ça en collaboration avec, je crois que c'était la Fédération de gymnastique de Lozère ou quelque chose comme ça, où c'était une journée multithématique autour du sport et il y avait des initiations à l'escalade. Donc c'est aussi effectivement des moyens de faire un peu connaître la pratique et recruter des nouveaux adhérents.
En parlant de collaboration, faites-vous souvent des activités avec des clubs tels que le club du Pont de Montvert ou le club de Mende, ou ça vous arrive ou pas?
Alors, il n'y a pas de collaboration officielle, on va dire, mais il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup de gens de Florac qui montent au club du Pont de Montvert et qui vont aussi monter sur le site en extérieur qui s'appelle La Forgette. Il y a environ 80 voies, un peu de toute difficulté et accessible au plus grand nombre, parce qu'il y a aussi un secteur d'initiation. Donc, on va dire pas de collaboration officielle, mais beaucoup d'échanges entre les différents clubs en termes d'adhérents et différents secteurs aussi.
Les sorties en extérieur, telles qu'à La Forgette, mais sur d'autres sites, je suppose, sont-elles fréquentes ou irrégulières?
Alors en fait, le club, il n'organise pas des sorties en tant que telles, parce que nous, on n'est pas habilité à encadrer des personnes pour grimper. Mais après, s'il y a des gens qui sont intéressés, il y a plutôt des réseaux un peu informels de grimpeurs sur le sud du département. On a des groupes de conversation sur WhatsApp, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter pour être intégré à ces groupes-là et pour faire des sorties, du coup, pas sous la casquette club, mais juste entre copains et se faire plaisir quand le beau temps est avec nous.
Participez-vous à des compétitions d'escalade?
Alors c'est pareil, le club en tant que tel non, mais on essaye de relayer les informations aux adhérents. Je sais qu'il y a une compétition très bientôt à Villefort, il me semble que c'est le 23 mars. Donc voilà, on a peut-être une équipe d'adhérents qui va aller y participer. Et le club en tant que tel n'organise pas des compétitions sportives, pas encore en tout cas.
Et avez-vous déjà envisagé que le club participe en tant que club à ces compétitions?
On s'est jamais motivé, mais ça pourrait être assez sympa effectivement d'essayer de monter une petite équipe. On a quelques grimpeurs qui se défendent bien, donc c'est vrai que ça pourrait être sympa.
Votre club est-il ouvert à tout type de niveau, que ce soit débutant à expert ou moyennement fort?
Alors, comme je le disais, dans le club, personne n'est habilité à initier et à encadrer la pratique de l'escalade. Donc, en fait, la salle est ouverte et mise à disposition à des grimpeurs qui sont autonomes en termes d'assurage. Voilà, donc on n'a pas la capacité d'initier, mais voilà, après, on s'entraide et on se donne des petits conseils. Mais voilà, donc on peut accueillir toute personne qui est autonome pour dans la pratique de l'assurage, ce qui est quelque chose qui se prend assez facilement en main. Et après, dans la salle, on a donc des voies qui sont vraiment très accessibles et puis des voies qui sont un petit peu plus compliquées, un petit peu plus hautes, avec notamment du dévers, ce qu'on appelle du dévers, où là, c'est un peu plus intéressant à travailler.
Vous nous avez parlé de formation. Est-ce que ça, du coup, ça vous arrive de faire des formations, pas forcément pour les débutants, mais pour devenir moniteur ou apprendre à faire des longues voies ou des ou diverses activités en escalade?
Alors du coup, nous, notre club, il est adhérent à l'UFOLEP. Du coup, c'est la fédération à laquelle on dépend. Et il y aura peut-être effectivement la possibilité dans les mois à venir que quelques personnes du club soient formées pour être initiateurs, c'est-à-dire pour apprendre les manips de sécurité comme il faut et pouvoir transmettre en toute sécurité ces bons gestes. Donc c'est un des projets du club, essayer de monter en compétence sur certaines choses. Voilà.
Sinon, au niveau de la licence du club, on m'a rapporté ce matin qu'elle coûtait qu'entre 40 et 60 euros, ce qui est une licence qui n'est vraiment pas très chère pour de l'escalade, car en moyenne, elle coûte entre 100 euros et ça peut monter à 600 euros et des bananes. Pourquoi cela ?
Alors, ça, c'est quelque chose qui a évolué. La première année du club, on dépendait d'une fédération qui était plus importante. Et en fait, il faut savoir que dans l'adhésion qu'on prend au club de Florac Escalade, mais c'est valable pour d'autres clubs sportifs, on a une part qui revient au club et une part qui revient, du coup, à la fédération sportive. Et donc, on a décidé de changer de fédération sportive pour avoir un coût d'adhésion qui est plus abordable. Et pour la simple et bonne raison qu'on souhaite que cette pratique, elle soit accessible au plus grand nombre et qu'en fait, la salle de Florac, c'est une petite salle qui propose un service assez limité, et du coup c'est pour ça qu'on préfère avoir une adhésion assez restreinte. Et du coup effectivement l'adhésion elle est à 40 euros pour des adultes, et si on décide d'adhérer aussi au club de Pont de Montvert, on peut adhérer aux deux clubs pour 60 euros vu qu'on dépend de la même fédération. Donc il y a juste la part club à régler dans le second club auquel on adhère.
Donc cela veut dire que si on paye 60 euros pour la licence de Florac et Pont de Montvert, on peut aller au cours des deux clubs ?
Ouais, c'est ça. Après, c'est pas des cours, hein. Comme je disais, c'est la salle qui est mise à disposition. Mais effectivement, on peut prendre la licence de 40 euros, par exemple, au club de Florac et aller au Pont de Montvert et régler la part club de 20 euros. Et comme ça, on a accès aux deux salles.
Avez-vous des cours enfants où il y a un moniteur formé pour apprendre l'escalade ?
Alors non, il n'y a pas de cours pour les enfants. Par contre, on a une session le jeudi, du coup à partir de 17h30, où c'est ouvert au duo parents-enfants. Donc là, il faut que le parent soit capable d'encadrer son enfant et de l'assurer en toute sécurité. Mais du coup, la salle est mise à disposition pour ce public-là, sur ces créneaux, sachant que les adultes peuvent aussi grimper. Mais voilà, pas de cours dispensés pour les enfants.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser à une potentielle formation de moniteur en escalade pour pouvoir créer différents créneaux d'horaires pour des cours particuliers?
Alors pas forcément pour des cours particuliers, mais notamment pour les enfants. On aimerait bien effectivement pouvoir proposer des encadrements pour les enfants, mais comme voilà, ça nécessite d'avoir certaines formations et certaines certifications. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire, mais qui n'est pas mis en place pour le moment par manque de temps de certains bénévoles. Mais voilà, ça aussi c'est un des projets un peu dans les tuyaux.
Et je vous remercie pour cette interview qui nous a répondu à la plupart de nos questions. Et merci beaucoup.
Merci à toi.
Voilà, la relève est assurée, Léo.
Ouais, complètement.
Merci beaucoup à toi, Malone. Tu reviens quand tu veux. Et on salue aussi Florestan. Et voilà, c'est la fin de cette matinale. Quelques trucs qui se sont passés dans cette matinale. L'atelier mixité choisi, auto-réparation de vélo, c'est ce mercredi de 16h à 19h. Vendredi, Newman, ma mère et moi, deux et avec Fabio Zenoni, mise en scène par Thibaut Neve et Damien Bricoteau. C'est ce vendredi à partir de 19h30 au Pont de Montvert. passemontagne48@gmail.com pour réserver. C'est à prix libre. Et justement, pour toi, Damien, on va s'écouter Rolling Stone, Start Me Up. Merci beaucoup, Léo.
Merci à toi, Ben.
Et on se retrouve, nous, très vite, hein, au moins dans les annonces.
Au moins dans les annonces.
Allez. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Restez bien sur Bartas, on y est pas trop mal. À mercredi, ciao.
Bon début de semaine.